RFI, les 20h à Paris, 21h à Beyrouth.
Mailleul de Charon.
Et à la une de ce journal, Israël poursuit ses bombardements au Liban. 10 personnes ont été tuées dans des frappes dans l'est du pays, selon les autorités. Dans le nord d'Israël, un agriculteur et 4 travailleurs thaïlandais ont été tués par une roquette tirée du Liban. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des disparus dans le sud-est de l'Espagne. Il sera encore plusieurs dizaines, selon le gouvernement. Les inondations ont fait au moins 205 morts. Le Japon et l'Union européenne annoncent un nouveau pacte de sécurité et de défense, une étape historique selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Cet accord prévoit notamment davantage d'exercices militaires conjoints. Et puis, c'est la dernière ligne droite pour les négociations à la COP16 biodiversité en Colombie. Pays riches et pays en développement doivent se mettre d'accord sur un plan financier pour protéger la planète. Après une nuit de frappe aérienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le premier ministre libanais accuse Israël de refuser tout cessez-le-feu avec le Hezbollah. L'aviation israélienne a mené à l'aube au moins 10 frappes qui ont provoqué de fortes explosions et ont détruit des immeubles. Des bombardements dans la région de Baalbek, dans l'est du Liban, ont fait au moins 10 morts selon les autorités libanaises. Hier, des roquettes tirées depuis le Liban ont tué un agriculteur israélien et 4 travailleurs thaïlandais dans le nord d'Israël. Un 5e ouvrier agricole, lui aussi thaïlandais, a été grièvement blessé. Dans la communauté des travailleurs étrangers en Israël, l'émotion est vive à Jérusalem. La correspondance de Michel Paul.
Il récoltait des pommes en Haute-Galilée, à quelques dizaines de mètres seulement de la frontière libanaise, un secteur qui, quelques heures plus tôt, était encore considéré comme zone militaire fermée. L'Organisation des réfugiés et migrants en Israël rappelle que le gouvernement s'était engagé à ne pas mettre en danger la vie des ouvriers agricoles thaïlandais. Une autre ONG israélienne, les Médecins pour les Droits de l'Homme, souligne que le drame aurait pu être évité si les consignes réitérées il y a tout juste un mois après la mort d'un autre ouvrier thaïlandais dans des circonstances similaires avaient été respectées. L'ambassade de Thaïlande en Israël demande aux autorités israéliennes d'évacuer les travailleurs vers des zones plus sûres au sud d'Israël. Après une interruption de 8 mois, plus de 10 000 ouvriers thaïlandais sont à nouveau employés en Israël. C'est la plus grande communauté de migrants dans le pays. 41 Thaïlandais figuraient parmi les 1200 personnes tuées le 7 octobre 2023. 30 ressortissants thaïlandais ont été enlevés lors de cette attaque et 6 seraient toujours en captivité, selon les autorités thaïlandaises. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et l'ONU tire le signal d'alarme concernant la situation à Gaza. Elle est apocalyptique dans le nord de l'enclave. L'ensemble de ses habitants courent le risque imminent de mourir selon les responsables des grandes agences humanitaires des Nations Unies. Elles exigent qu'Israël cesse son assaut contre Gaza et contre les humanitaires. L'armée est mobilisée dans le sud-est de l'Espagne pour aider à faire face aux conséquences dramatiques des inondations qui ont tué 205 personnes selon un dernier bilan. La région de Valence est la plus durement frappée. Daniel Losada est responsable des urgences à la Croix-Rouge espagnole. Après l'épisode de crue, il a été dépêché sur place et pour lui, l'état des infrastructures est la clé pour l'arrivée des secours. De nombreuses zones sinistrées sont encore très difficiles d'accès.
Le plus compliqué dans cette situation, c'est l'accès au site. La qualité des infrastructures est vitale pour l'évacuation, mais aussi pour le secours et l'appui à la population. La partie logistique, c'est la clé de cette opération. Et à mon avis, c'est là que sont concentrés les efforts. La région de Requena Util était complètement inondée. Et plus au sud de la ville de Valence, à Torrent ou Paiporta, les crues ont eu un impact brutal. Dans ces zones, il n'y a pas de grandes routes récentes ou refaites à neuf. Ce genre d'infrastructure change la donne en matière de préparation. Pour cette raison, l'accès y a été très compliqué.
Daniel Losada, responsable des urgences à la Croix-Rouge espagnole. Josep Borrell évoque une étape historique. Le chef de la diplomatie européenne s'est exprimé après la signature d'un nouveau pacte de sécurité entre le Japon et l'Union européenne. Les deux partenaires craignent une extension du conflit ukrainien à l'Asie, notamment après l'envoi de troupes nord-coréennes en Russie. Cet accord signé prévoit davantage d'exercices militaires, un dialogue au plus haut niveau et une coopération dans le domaine de l'industrie et de la défense. Nicolas Roca.
Sécurité maritime, spatiale, cybersécurité ou encore ingérence étrangère, le partenariat entre Bruxelles et Tokyo doit concerner tous les domaines de la défense. Il pourrait se concrétiser par des exercices maritimes et une coopération navale accrue, alors que les tensions grimpent avec Pékin autour de Taïwan et de la souveraineté en mer de Chine méridionale. Le renforcement des capacités militaires chinoises inquiète dans l'archipel, où le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba prône un OTAN asiatique. Tokyo compte faire grimper à 2% du PIB le budget de sa défense, un objectif que l'Europe peut aider à atteindre grâce à une coopération entre les deux industries de l'armement, notamment dans le domaine des nouvelles technologies militaires. Une nécessité pour garder un temps d'avance face à une Corée du Nord qui continue d'améliorer son arsenal avec le tir d'un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide ce jeudi. D'autant que Pyongyang pourrait bénéficier de l'expertise russe pour passer à un niveau encore supérieur. Après sa visite à Tokyo, Josep Borrell est attendu dans la péninsule coréenne, en Corée du Sud, un pays à l'industrie de la défense florissante et avec lequel l'Union européenne semble avoir de plus en plus d'intérêts stratégiques en commun.
Nicolas Rocca, et Washington annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 425 millions de dollars. L'Ukraine en difficulté sur le front Est et qui a été visée par une frappe russe sur un commissariat dans le centre de Kharkiv, dans le nord-est ce vendredi. Au moins un policier a été tué et 30 autres personnes ont été blessées. C'est le dernier jour de négociation à la COP16 biodiversité en Colombie. Les pays riches et ceux en développement ont jusqu'à ce soir pour se mettre d'accord sur un plan financier de sauvegarde du vivant d'ici 2030. Il doit permettre de sauver la planète et les êtres vivants, notamment de la déforestation ou encore de la pollution. Tout le monde doit renoncer à quelque chose, a prévenu la présidente colombienne. Et dans le même temps, on prépare déjà la COP17 de 2026. Théo Renaudon, c'est l'Arménie qui a été choisie pour accueillir cette prochaine COP et ce face à l'Azerbaïdjan.
Les deux pays étaient en lice pour accueillir cette 17e conférence des Nations Unies sur la sauvegarde de la nature. Deux pays du Caucase ennemis jurés en conflit depuis des décennies. Les départager n'a donc pas été chose facile. Pour la première fois de l'histoire de la COP biodiversité depuis 30 ans, les États ont dû voter à bulletin secret. Résultat, 65 voix pour l'Arménie, 58 pour l'Azerbaïdjan. Épilogue donc d'une véritable lutte d'influence au sein de la COP. Tout ça est en fait l'illustration de tensions qui se poursuivent entre Arménie et Azerbaïdjan. Les deux anciennes républiques soviétiques s'affrontent à propos du Haut-Karabakh. Souvenez-vous, c'est cette enclave montagneuse où vivent une majorité d'Arméniens. Mais l'Azerbaïdjan a envahi la zone l'an dernier, poussant à l'exode 120 000 Arméniens. Depuis, la lutte s'exporte sur la scène internationale, comme à propos de cette COP 17, une manche remportée donc par l'Arménie.
Théo Renaudon, et puis vous pouvez suivre l'évolution des négociations de la COP 16 en cours, donc notamment sur RFI.fr. Environnement toujours, la capitale de l'Inde, New Delhi, s'est réveillée dans un nuage de pollution ce vendredi. Hier, les habitants ont célébré Diwali, la fête des lumières hindoues, et ce à grand renfort de pétards et de feux d'artifice, et ça malgré leur interdiction. Les niveaux de polluants mesurés dans l'air ont atteint peu avant l'aube plus de 20 fois le seuil maximal de pollution quotidienne recommandé par l'OMS. Les précisions de Yelena Tomic.
Alors que New Delhi est entrée dans sa période annuelle de forte pollution atmosphérique, due notamment au brûlage de chaume par les agriculteurs qui préparent leur terre à la prochaine saison, mais aussi aux usines et à la circulation routière, le festival de Diwali a aggravé le phénomène, plongeant la mégalopole dans un épais nuage de smog, rendant l'air irrespirable pour ses près de 31 millions d'habitants. Les niveaux de particules fines, dénommées PM2,5, des microparticules cancérigènes capables de pénétrer dans la circulation sanguine, ont atteint tôt ce matin 345 microgrammes par mètre cube, un taux nocif pour la santé. Pour lutter contre la pollution, 7 États indiens ont renforcé les restrictions concernant l'utilisation des pétards. Les autorités de New Delhi étant les plus sévères dès la mi-octobre, elles ont décrété l'interdiction totale de la fabrication, du stockage, de la vente et de l'usage des feux d'artifice. Des mesures qui n'ont de toute évidence pas été respectées. Les forces de l'ordre sont souvent réticentes à agir contre les contrevenants compte tenu de la dimension religieuse de cette fête hindoue, la plus importante de l'année et qui marque la victoire du bien contre le mal.
Yelena Tomic, RFI, il est bientôt 20h10 à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient dans une vingtaine de minutes à la demi avec un journal consacré à l'actualité africaine.